Vous écoutez, on lit pour vous.
Les 12 plus vendus, un texte de José-Anne Paradis, paru le 10 juin 2025 dans les libraires. Au cours des 11 dernières éditions du 12 août, ce sont les œuvres de ces auteurs et autrices qui ont été les plus vendues. 1. Élise Gravel. Fille d'un grand pionnier de la littérature jeunesse québécoise, François Gravel, la top 1 de ce palmarès est la coqueluche des enfants d'âge primaire. Faites le test et parlez à un jeune d'une patate à vélo, la courte échelle. Vous verrez que cette graphiste de formation a bel et bien tracé son chemin avec force au fil de sa cinquantaine de livres publiés à ce jour. Celle qui aborde autant des aventures de culottes meurtrières que des histoires qui déconstruisent les stéréotypes de genre, propose également des livres où le super-héros sent le fromage et d'autres qui prônent le consentement. Ses couleurs en aplats et son style aussi simple que frais attirent et captent le regard. Exactement ce qu'il faut pour devenir des classiques de la bibliothèque des jeunes. 2. Michel Rabagliati. Il a été fait chevalier de l'Ordre national, chevalier de l'Ordre des arts et des lettres et compagnon de l'Ordre. Si quelqu'un doutait encore de son importance dans le milieu de la bande dessinée et de la littérature, qu'il aille faire ses devoirs et lire la monographie concernant Michel Rabagliati intitulée « Paul, entretien et commentaires, la pastèque ». Il y verra que cet auteur remarquable, qui a étudié en typographie et en dessin commercial avant de travailler durant plusieurs années comme graphiste et illustrateur, a su se forger une place bien à lui avec sa série autobiographique. « Paul à Québec » a été adapté au cinéma. Rosalille l'a été en livre audio et Paul à la maison l'a été au théâtre. Mais, parole de littéraire, le meilleur restera toujours de plonger dans les livres eux-mêmes. Et au risque de nous répéter, le livre qui a été le plus vendu de toutes les éditions du 12 août réunies est le roman graphique Rosalille. 3. Michel Jean. Si vous ouvrez le Robert Illustré 2025, à la page 1058, vous y trouverez une entrée sur Michel Jean, véritable signe de consécration. Psst, David Goudreau s'y trouve également. Nous ne nous en étonnons pas. Le journaliste reconnu qu'il a été a marqué le paysage médiatique du Québec. Et l'auteur inou qu'il est, lui a valu des publications dans de nombreux pays. Pas étonnant que les adaptations soient nombreuses. Récemment, on a pu voir Koukoum, libre expression, porté au théâtre. Et il sera également adapté en série télévisée, tout comme Tio Tiake. Un film est dans la mire pour Maïkan, tandis que l'auteur travaille actuellement sur un scénario de Kimik. Vous avez tout lu de Michel Jean? Pourquoi ne pas plonger dans l'œuvre du journaliste polonais Ryszard Kapuściński, une grande figure littéraire qui l'inspire? 4. David Goudreau. Poète, slameur et romancier au verbe affûté, David Goudreau fait vibrer les mots avec une fougue qui lui a même valu de figurer au Bye Bye 2021. Premier Québécois à avoir remporté la Coupe du monde de poésie, 2011, il transforme ses racines en art brut et sensible. Travailleur social de formation, il scrute l'âme humaine avec tendresse et mordant. De la scène, en marge du texte, à la page, Goudreau fait rimer douleur et beauté, chaos et poésie. Si sa trilogie « La bête » Stanké possède un univers déstabilisant qu'il faut être prêt à recevoir, son album jeunesse « La réparation de mes parents » 2, aborde la séparation comme nul autre pareil. Et sa poésie, elle, est partout sous sa plume. 5. Simon Boulris. Simon Boulris est une tornade créative qui jongle avec les genres, les formes et nos émotions. Auteur prolifique, il écrit des romans, du théâtre, de la poésie, des albums jeunesse, des séries télé et même un livre de cuisine, « Ma vie au micro-ondes », récit d'infortune culinaire, cardinal. Mais si cet être déborde de lumière, à la lecture de son œuvre, il faut lire son premier roman, toute la richesse de sa plume y est déjà, les Jérémiades, sémaphores. On voit qu'il s'y connaît assurément, en ténèbres. Dans « Pleurer au fond des mascottes », Québec-Amérique, les masques tombent justement un peu. Sa vivacité légère et désespérée, qui flirte avec le pathos sans jamais s'y abîmer, l'audace, la joie, l'excès, l'effervescence, la cruauté, le tragique, l'intime et le burlesque amalgamés. C'est ainsi que l'auteur Luc Mercure décrit l'œuvre de ce Boulris chouchou, et on ne saurait mieux dire. Son énergie débordante, son authenticité et son œuvre d'une grande qualité littéraire font de lui une figure incontournable de la scène culturelle québécoise. 6. Serge Bouchard. Anthropologue des âmes nordiques, Serge Bouchard a su, plume ou micro en main, raconter le Québec comme peu d'autres. Que ce soit dans « Les corneilles ne sont pas les épouses des corbeaux » ou dans son enquête ethnographique sur les camionneurs, « Les yeux tristes de mon camion, Boréal », ses essais mêlent érudition et tendresse. Il écrivait comme il pensait, avec humanité, humour et une profonde écoute des voix oubliées. Une œuvre riche, ancrée dans le territoire et la mémoire collective. Et comme l'a déjà décrit Marie-France Bazot, il est de ce cuir dont on fait les bêtes lumineuses. Vous écoutez « Les 12 plus vendus », un texte de José-Anne Paradis, paru le 10 juin 2025 dans Les libraires. 7. Marie-Christine Chartier. Marie-Christine Chartier écrit comme on tend la main, avec sincérité, sensibilité et justesse. Ancienne athlète de haut niveau en tennis, elle troque la raquette pour la plume et publie « L'allégorie des truites arc-en-ciel » en 2018, un succès instantané. Depuis, elle enchaîne les romans où les relations humaines prennent toute la place. Sa voix littéraire, douce mais assurée, a conquis un large lectorat, particulièrement chez les jeunes adultes, prouvant qu'elle est une autrice à l'écoute du réel et des battements du quotidien. Mettez cette date à votre agenda. Le 7 août paraîtra sa nouveauté, Oasis, Urtubise, juste à temps pour la prochaine édition du 12 août. Et pour ceux qui n'auraient pas encore mis la main dessus, l'allégorie des truites arc-en-ciel et la floraison des nénuphars paraissent en format de poche en juin. 8. Anaïs Barbeau-Lavalette. Anaïs Barbeau-Lavalette est une voix singulière du paysage littéraire et cinématographique québécois. Elle s'illustre, depuis « La femme qui fuit », Marchand de feuilles, 2015, par une œuvre qui est autant poétique qu'humaine et qui, toujours, fait honneur au concept de liberté. Nos héroïnes et Nos fleurs sont ces deux ouvrages destinés à la jeunesse ou, tout simplement, à ceux qui, comme elles, ont su conserver leur esprit d'émerveillement. Cette autrice est également cofondatrice du mouvement Mères au front, qui milite devant l'urgence climatique. L'ouvrage collectif « Zone sacrifiée » édition du Quartz, qu'elle a co-dirigé, en témoigne. Ceux qui aiment sa plume et ses idées, tenez-vous prêts. Cet automne, elle fera paraître la correspondance qu'elle a entretenue 2 ans durant avec le dramaturge Steve Gagnon. De quoi, on vous l'assure, vous chavirez complètement. 9. Alex A. Alex A, c'est le cerveau, un peu déjanté, derrière l'agent Jean, presse aventure. Ce héros loufoque qui sauve le monde à coups de gadgets farfelus et de gaffes désopilantes. Depuis 2011, ses BD font exploser de rire les jeunes lecteurs et exploser les ventes, plus 1 million d'exemplaires. Ses œuvres jouent sur les dynamiques entre héros et vilains, plongent tête première dans les stéréotypes du genre pour en faire ressortir l'absurde. En plus du dessin, Alex A. assure lui-même les scénarios, les couleurs et les effets visuels. Son humour délirant et son imaginaire sans limite en font une star auprès des jeunes. Grâce à lui, la bande dessinée jeunesse se taille une place dans ce palmarès. 10. Christine Brouillet. Amoureuse des mots, des chats et de gastronomie, Christine Brouillet est une plume d'exception depuis son tout premier polar, Chère voisine. Née à Québec, où une bibliothèque porte fièrement son nom, elle a été couronnée de l'Ordre de la Pléiade et a été sacrée chevalière de l'Ordre national du Québec. Ses romans incarnent un mélange de rigueur littéraire et de passion, mais également une grande ouverture sur les enjeux contemporains de notre société. Par exemple, dans « Le mois des morts », elle s'attaque aux préjugés à l'égard des homosexuels, alors que dans son dernier paru, « Le regard des autres », druide, elle plonge dans les abus faits aux adolescentes. S'il y a une maîtresse en la demeure du polar au Québec, c'est bien elle. 11. Patrick Senecal. Combien d'ados ont accroché à la lecture grâce à un livre de Patrick Senecal? Combien de gens ont découvert que la lecture pouvait aussi les interpeller grâce à son style cru et psychologique? Le maître incontesté de l'horreur québécois qui sait explorer les zones d'ombre de l'âme humaine fait sensation depuis 1994. Et son 5150 Rue des Ormes, adapté au cinéma, comme plusieurs de ses romans d'ailleurs, Les 7 jours du Talion, Sur le seuil, jusqu'à son plus récent roman Civilisé, à lire. Scénariste, dramaturge et ancien professeur de littérature, ce natif de Drummondville a marqué des générations de lecteurs avides de frissons. Et saviez-vous que personne ne sait mieux faire le DJ improvisé que lui dans les différents événements littéraires? 12. Jean-Philippe Barry Guérard. Contemporaine, provocatrice, audacieuse, dans quel camp rangeons-nous l'œuvre de Barry Guérard? Cet écrivain, comédien, animateur et scénariste secoue les codes avec une plume acide et affûtée sur la modernité. Révélé avec « Sport et divertissement, ta mère », il poursuit avec « Royal » et « Manuel de la vie sauvage », adapté au théâtre et à la télé, où il décortique les ambitions, les égos et les dérives de notre époque. Son style incisif, entre satire sociale et thriller existentiel, capte l'air du temps, avec une lucidité parfois cruelle, toujours captivante. Ceux dont le cœur oscille entre littérature et jeux vidéo seront ravis de le retrouver à l'animation de « Bien joué », un magazine télévisuel sur la culture des jeux vidéo. C'était « Les 12 plus vendus », un texte de José-Anne Paradis, paru le 10 juin 2025, dans les libraires.
Valérie Fontaine dans l'univers d'Émilie Perrault, au cœur d'une mission. Une entrevue réalisée par Valérie Fontaine, parue le 21 octobre 2024 dans Les Libraires. Quand la revue Les Libraires m'a proposé d'écrire cette chronique, mon esprit s'est complètement vidé de ma culture littéraire. Plus aucun nom ne me venait en tête. Comme si les possibilités étaient si vastes, si inaccessibles, que je ne pouvais tout simplement pas envisager d'aller à la rencontre de l'univers d'un auteur que j'admirais. La nuit est tombée. Je me suis couché. Je me suis relevé et, comme mille fois en pyjama, j'ai fouillé dans ma bibliothèque, mais cette fois c'était différent. Je n'étais pas en quête d'une lecture, j'étais en quête d'un rendez-vous précieux. Je n'ai pas cherché longtemps. Émilie Perrault, c'était évident. J'étais allé voir son spectacle, La suspension consentie de l'incrédulité. J'avais lu et relu Faire œuvre utile et Service essentiel. J'adore sa quotidienne à la radio, Il restera toujours la culture. Je l'ai choisi. Elle a dit oui. Alors je suis là, devant la porte de son pied-à-terre à Montréal. Je suis stressé, parce qu'une fois l'euphorie calmée, j'ai pris conscience de mon mandat, planifier une entrevue, la diriger, recueillir ses propos, les rendre dans une chronique. Je m'éloignais de ma zone de confort. Mais bon, je me rassure en me répétant qu'elle est vraiment sympathique. Je l'ai déjà rencontrée à quelques reprises et enfin, nous aurons la chance d'approfondir des discussions au lieu de simplement nous croiser. Elle arrive derrière moi, souriante, me fait entrer, en même temps qu'elle, en s'excusant de ne pas avoir eu le temps de ramasser, tout est impeccable, et nous nous installons à la table près de la fenêtre qui laisse passer une magnifique lumière chaude de fin de journée. Cette fenêtre. Elle m'en avait parlé lorsque nous avions planifié notre rendez-vous. C'est un bel endroit pour les photos, qu'elle m'avait dit, de sa voix douce, souriante et pleine de lumière, elle aussi. Je commence par lui expliquer pourquoi je suis une grande admiratrice de son travail et j'enchaîne avec ma question principale, celle qui fait que je suis assise devant elle. Sa mission. Je n'invente rien, c'est écrit dans sa fiche de casting. Donner envie au public de consommer la culture sous toutes ses formes. Ça vient d'où? Est-ce que tu en as toujours eu une? Je pense que c'est quelque chose qui s'est vraiment cristallisé autour de faire œuvre utile. Quand le livre est sorti, c'est la première fois où j'ai réalisé « Ça, c'est ma mission ». Tout avait toutefois commencé lorsqu'elle était journaliste culturelle à l'émission de Paul Arcand. Je me suis rendu compte à quel point ce qui me faisait le plus plaisir, c'est quand les gens me remerciaient de leur avoir fait découvrir quelque chose. C'était ma paix. J'aime vraiment les arts et je ne peux pas garder ça pour moi. Tout le monde doit avoir accès à ça. Ce sont les projets qui ont suivi qui m'amènent ici chez elle, car depuis sa mission, on la sent partout et ça m'inspire. Comme elle le nomme, ce n'est pas tout le monde qui en a une. Je le perçois aussi. Pour ma part, toutes mes actions sont orientées vers la mienne. Donner le goût de lire aux enfants et faire entrer les livres dans les maisons. Parfois, je me demande si je manque de légèreté. Si c'est possible pour moi de faire un projet qui n'a pas de sens. Et elle? Elle me parle de son album jeunesse, En rigolo, publié chez Fonfon. Je souris. Lorsque je préparais notre rencontre, j'avais eu l'impression de l'avoir trouvé, son projet qui s'éloigne de son objectif plus sérieux. Celui tout léger, qu'on attrape juste pour rire, ce qui est déjà une bonne raison. Et puis non, je me suis aperçu qu'elle avait superposé des couches de sens dans son histoire sur l'autodérision. Elle acquiesce quand je la taquine avec ça. Je pense que je finis tout le temps, malgré moi, par ajouter des couches. Dans l'album, j'ai réussi à parler des pensionnats autochtones. Même si elle est maintenant autrice, qu'elle monte sur scène, elle refuse encore de se dire artiste. Dans le geste artistique, il doit y avoir une certaine gratuité que je n'ai pas. J'avais envie de communiquer quelque chose sur l'autodérision, mais peut-être que c'est la même affaire. C'est peut-être juste moi qui ai un syndrome d'imposteur parce que je viens de la communication. J'ai l'impression que les artistes ont comme une inspiration divine, qu'il ne faut pas qu'on leur mette de barrières, il ne faut pas qu'on essaie d'en faire un sens, il faut que ce soit juste l'œuvre qui dirige. Je tente de la convaincre du contraire. Mais combien de fois on a dit que les artistes avaient changé la politique, un pays? Oui, mais parce que ça partait vraiment de leur impulsion. Je lui parle de l'intention d'écriture que j'enseignais à mes élèves jadis. On peut écrire pour raconter, donner son opinion. Quelle son intention, c'est d'informer, de faire réfléchir. Je pense à mes livres, mon nouveau roman « Au bord de l'errance », que je souhaite utile pour réfléchir à la crise du logement, mon album « Le grand méchant loup dans ma maison », qui dépeint la violence familiale, sont tous les deux nés de mon besoin de générer des discussions, d'ouvrir les horizons. Est-ce que le geste créateur doit être complètement libre? Qu'est-ce que la gratuité créative? Ces questions m'ébranlent un peu. Et le fameux syndrome de l'imposteur, j'en suis aussi contaminé. Vous écoutez Valérie Fontaine dans l'univers d'Émilie Perrault, au cœur d'une mission, une entrevue réalisée par Valérie Fontaine, parue le 21 octobre 2024 dans les libraires. En la lisant, j'ai remarqué beaucoup d'humilité, des traces du doute aussi un peu partout. Dans l'introduction de « Services essentiels », par exemple, « Qui suis-je pour déterminer la place que doit prendre l'art dans nos vies ?» À quel point le doute t'aide et te nuit dans tes projets? Ça nuit peut-être, mais je n'ai pas envie de changer ça. Elle fait une pause, réfléchit, me parle du patriarcat. Les hommes doutent moins. Plutôt que de dire « il faudrait que nous, les femmes, on arrête de douter », j'aimerais que les hommes doutent plus. Je ne vais pas arrêter, j'aspire à ce qu'il y ait plus de gens qui doutent, comme moi. Cette phrase-là, je sens qu'elle me restera longtemps dans la tête et le cœur. Je dois apprendre à aimer ce flottement inconfortable davantage et, en tant que société, on a besoin de lui plus qu'on ne le croit. Je suis contente de l'entendre parler du patriarcat. Je suis encore sous le choc de son documentaire « La parfaite victime », une enquête cinématographique sur les victimes d'agressions sexuelles. Que penses-tu des impacts du livre pour passer un message en comparaison avec la télé et la radio? Ah, c'est tellement une bonne question. Là, je suis vraiment fier de moi. En ce moment, j'ai une idée. Je me demande si ce sera un podcast ou un livre. Qu'est-ce qui a le plus d'impact? Je n'ai pas de réponse à ça. C'est tellement des façons différentes de dire. Pour la parfaite victime, la loi a changé. Quand le ministre de la Justice t'appelle un matin pour t'annoncer la création d'un tribunal spécialisé, c'est sûr que là, tu n'as pas le choix de te sentir un peu concerné. Faire œuvre utile, le livre, je pense qu'il est pérenne, mais c'est sûr que la série télé, je m'en suis fait beaucoup parler. Pour Henri Golo, je suis encore en train de le percevoir. Il y a plein de gens qui me disent « Ah, ça c'est le livre préféré de mon enfant ». Je ne sais pas quel sera l'impact dans quelques années, c'est plus difficile à mesurer. Ce que j'aime vraiment beaucoup du spectacle, c'est qu'après, je vais rencontrer les gens, on parle. Tandis qu'à la radio, c'est l'intimité, c'est un médium d'habitude. Mais je pense qu'il y a assurément de bons sujets pour chacun des médiums. Je la trouve magnifiquement complète dans sa carrière. Nous sommes chanceux qu'une femme aussi forte et bienveillante soit présente dans les différentes sphères médiatiques. J'imagine que ça engendre un horaire hyper chargé. Comment fait-elle pour trouver le temps d'écrire? Pour ma part, c'est mon occupation principale et je peine souvent à y arriver. Elle me parle de la musique de Flore Laurentienne et de Chandelle pour créer une bulle d'écriture, cerner le moment, prendre le temps. Tandis que pour le spectacle, les échéanciers étaient ce qui lui permettait d'avancer. Ça et son conseiller dramaturgique, Jean-Philippe Lehoux. Même si ce ne sont pas les idées qui manquent, elle n'a pas de projet d'écriture concret pour l'instant, toute son attention étant consacrée à sa quotidienne à la radio et à la réécriture de sa pièce dans laquelle elle joue. Seule. J'ai moins l'appel de la fiction. J'avais déjà commencé à écrire quelque chose qui pourrait être un roman, puis rapidement, c'est comme si ça s'éteignait. J'en consomme moins aussi. Je suis une grande consommatrice de documentaires. Le prochain truc de longue haleine que je vais faire, j'aimerais que ce soit un documentaire. J'imagine ta pile à lire en tant qu'animatrice d'une émission littéraire et je panique un peu. Réussis-tu à lire pour le plaisir? C'est sûr que la lecture pour le plaisir, pendant une saison régulière, non, ça n'existe pas. Mais j'ai quand même un mot à dire sur les auteurs que je reçois à l'émission. Ça influence le choix des invités. Parfois, il y a des incontournables qui ne sont pas nécessairement mon genre, mais je vais les lire quand même. Pendant une saison régulière, je fais 3 entrevues d'auteurs par semaine, donc je lis 3 livres par semaine. J'aime mieux lire les livres parce que les entrevues sont meilleures. La bonne nouvelle, c'est que je lis vite. J'ai toujours été une grande lectrice. Quand je suis vraiment dans un livre, je peux être avalé par le livre. J'adore ça. Ce n'est pas lourd pour moi, prendre un livre. Rempli des suggestions de lecture de ses collaborateurs, elle rattrape l'été les lectures qui lui faisaient envie pendant l'année. Elle en profite parfois aussi pour prendre de l'avance. Il y a toute la question de combien de temps d'avance je peux lire les livres. Quand vient le temps de faire une entrevue, il faut que tu t'en rappelles. Maintenant, mes livres, je les surligne. Je ne faisais pas ça avant. J'écris des questions dans la marge. Je ne peux pas prêter ces livres-là, c'est gênant. Arrive le moment de visiter sa bibliothèque. Je me sens privilégié, mais aussi mal à l'aise, d'entrer dans sa chambre, où sa bibliothèque occupe un mur entier. Non, non, entre. J'ai vraiment hâte de te la montrer. Quand elle était petite, la bibliothèque était son safe space. Probablement qu'elle garde encore des traces de cette impression de sécurité, de paix. Parce que lorsqu'elle en parle, sa voix monte dans les aigus, portée par le bonheur. Ma première question, quand je rencontre une nouvelle bibliothèque, est toujours à propos de son classement. Émilie m'explique qu'après avoir tenté le classement par couleur d'épine, elle s'est heurtée à la difficulté de retrouver ses livres. Ils sont maintenant classés par maison d'édition pour mettre en valeur leur facture visuelle. Tout est en ordre. Les livres posés à l'horizontale ou debout bien droit, il est clair que la propriétaire de cet espace a l'œil pour la beauté et l'ordre. Émilie attrape quelques traductions mises de travers qu'elle range ailleurs. Elle énumère les éditeurs en effleurant les livres du bout des doigts. Pas d'ordre alphabétique, par contre, seulement le look. Que ce soit beau. Pas loin, la photo de Caroline Dawson, accrochée au coin du miroir. Émilie me parle de son amie. À quel point elle s'en ennuie. De sa beauté aussi. Ces deux-là ont dû avoir des conversations mémorables. Notre rencontre s'achève. Le soleil de fin de journée est plus bas. Nous jasons de nos vies sur le pas de la porte. C'est déjà terminé. J'ai écrit cette chronique en coupant des dizaines de lignes de propos pertinents que j'aurais aimé laisser sur ces pages. Le syndrome de l'imposteur revient me taquiner le ventre. Je fais lire mes mots à mon amoureux, qui me suggère ensuite de relire le petit bout concernant la leçon que je viens d'apprendre sur le doute. Il a bien raison. Merci, Émilie. C'était Valérie Fontaine dans l'univers d'Émilie Perrault au cœur d'une mission, une entrevue réalisée par Valérie Fontaine, parue le 21 octobre 2024 dans les libraires.
La langue de Camille Lorrain, un texte de Jean-François Nadeau, paru le 8 mars 2024 dans Le Devoir. Lundi, le 11 mars 2024, le père de la charte de la langue française, l'ancien ministre indépendantiste Camille Lorrain, sera décédé il y a 25 ans. Quelle patience infinie il avait, s'exclame l'ancienne ministre Louise Arel en évoquant sa détermination générale autant que sa manière d'envisager les rapports sociaux. Camille Lorrain a d'abord connu une brillante carrière de psychiatre, comme l'a relaté son biographe Jean-Claude Picard. Et même au temps où il ne pratiquait plus, tout le monde continuait de l'appeler docteur. Non sans raison, souligne Louise Arel. Dans le Québec d'avant 1960, l'accès à une éducation de base n'est pas garanti à tous. La fratrie des Lorrains, installée à Charlemagne, tire le diable par la queue. La famille est pieuse. Malgré leurs prières au ciel, les Lorrains arrivent à peine à joindre les deux bouts. Si le jeune Camille, né en 1922, peut fréquenter le Collège de l'Assomption, c'est grâce à Paul Gouin. Dans les années 1930, Gouin est une figure politique majeure. Rejeton du premier ministre Lomer Gouin, il conduit une faction de députés dissidents au sein de l'Action libérale nationale, ALN. Pour se hisser au pouvoir, Gouin risque une alliance avec les conservateurs menée par Maurice Duplessis. Ce dernier n'en fera qu'une bouchée au sein de l'Union nationale. Au cours de ces années mouvementées, Paul Gouin n'a que de bons mots en privé devant les résultats scolaires de Camille Lorrain, son petit protégé. Très tôt, le jeune Lorrain démontre un appétit considérable pour le travail intellectuel. Curieux de tout, il fréquente le St. Mary's English Academy, un club de langue anglaise. De jeunes gens y discutent d'histoire, de l'actualité, de religion. On a tendance à oublier que Camille Lorrain avait la plus haute estime pour la culture anglaise, affirme Louis Bernard, ancien chef de cabinet de René Lévesque, en entrevue au Devoir. Dans les collèges, il est répété comme un mantra que la foi est la gardienne de la langue et vice-versa. La religion catholique va occuper toute sa vie une place prépondérante dans l'esprit de Camille Lorrain. Au point où il est, pour un temps, habité par l'espérance de devenir prêtre. C'est la guerre. Le séminariste en soutane se retrouve, l'été venu, à travailler dans une usine de munitions. La soutane va vite tomber. Quand Lorrain lit Karl Marx, après la terrible boucherie de ce conflit, ce n'est pas pour épouser ses thèses, mais pour envisager par quelle modalité repenser la justice sociale en accord avec le christianisme. Jusqu'au début des années 1950, Lorrain continue de faire corps avec les positions sociales et politiques de l'Église. Dans ses écrits, il va jusqu'à prendre la défense de politiques autoritaires, comme celle de Salazar au Portugal. Le docteur. À l'Université de Montréal, Camille Lorrain mène des études de médecine tout en dirigeant les pages du Quartier Latin. Ce journal étudiant, véritable école de journalisme, paraît deux fois par semaine. Sa formation en médecine lui apparaît insuffisante, pour ne pas dire dépassée. Il va parfaire ses connaissances à l'occasion de plusieurs séjours d'études en Europe, de même qu'aux États-Unis. Devenu psychiatre, tout de suite conscient de la nécessité de repenser le système, Camille Lorrain ne s'explique pas pourquoi les hôpitaux québécois font un si mauvais sort aux malades mentaux. Il s'emploie à réformer l'Institut Albert-Prévost, attaché à l'Université de Montréal. Fasciné par les dédales de la pensée humaine, le docteur s'intéresse de près au monde sensible. « J'ai toujours cru, dira-t-il, que les grands écrivains ont une conception de l'homme et de la société plus profonde que celle des savants. » À cette époque, le grand public apprend aussi à le connaître par le truchement de la télévision et de la radio. L'indépendantiste. Au milieu des années 1960, alors qu'il est loin encore d'être indépendantiste, Lorrain ne s'explique pas comment le français n'est pas institué comme langue officielle du Québec, pourquoi il n'est pas établi comme une nécessité dans l'espace public. En 1965, il avait été question pour Lorrain d'être candidat du Parti libéral à l'occasion de l'élection fédérale. L'arrivée dans le ciel canadien des colombes dirigées par Pierre Elliott Trudeau le fait se questionner. Il va se tourner du côté de l'option Québec, dessinée par René Lévesque. Les Québécois grandissent sous le signe d'une ambivalence et d'une ambiguïté qu'il faut savoir briser, clame-t-il. En 1970, il est élu député du Parti québécois dans un quartier populaire dont la réalité tranche avec les habitudes de vie qu'il a prises en s'installant à Outremont. Battu en 1973, il retourne à la pratique privée de la psychiatrie, sans délaisser pour autant l'activisme politique. En 1976, Lévesque en fait un homme de confiance. C'est à lui qu'il confie de veiller sur un large champ culturel dans lequel s'inscrit la dimension linguistique de la majorité. En même temps, il était notre confesseur, dira, comme d'autres, Louise Arel. Il prêtait à la confidence. Il était aussi un peu notre paratonnerre. Dans mon cas, c'est lui qui faisait en sorte que les colères de M. Lévesque ne s'abattent pas sur ma tête. Vous écoutez La langue de Camille Lorrain, un texte de Jean-François Nadeau, paru le 8 mars 2024 dans Le Devoir. La culture. On oublie volontiers que le cadre de la loi 101 était appuyé sur une vision très développée de la notion de culture, de sa place et de son importance en société, rappelle Louise Arel. Il y avait eu un livre blanc sur la question de la langue, mais il était suivi de près par un autre, consacré à la culture. En fait, l'un n'allait pas sans l'autre. Louis Bernard insiste sur la dimension culturelle des visées de Lorrain. Le livre blanc sur la culture était une œuvre bien pensée pour le long terme. Un livre blanc est un document officiel qui entend présenter, sur un mode relativement concis, les grands principes d'une politique jugée aussi complexe que fondamentale. Il y a une énorme différence avec la façon d'envisager le dossier linguistique aujourd'hui, qui est essentiellement juridique, note Louise Arel, en faisant directement référence à l'approche du ministre Jolin Barrette. Des appuis. Dès les premiers jours de décembre 1976, sitôt qu'il sait qu'il va devenir ministre d'État au développement culturel, Camille Lorrain entend s'appuyer sur des gens compétents. Il souhaite recruter à titre de sous-ministre et de ministre adjoint deux éminents professeurs, les sociologues Guy Rocher et Fernand Dumont. Les deux hommes acceptent. Pour Rocher comme pour Dumont, la langue est un vecteur de culture. Or, les besoins fondamentaux de la majorité française sont loin d'être assurés de ce côté, juge-t-il. Dumont sera, en 1977, le principal rédacteur du livre blanc, intitulé « La politique québécoise de la langue française », présenté en amont de la nouvelle législation. Les hésitations de l'évêque. Il a été répété que René Lévesque n'était pas tout à fait enchanté par l'ampleur de la politique linguistique proposée par Camille Lorrain. Louis Bernard croit qu'il faut nuancer. Monsieur Lévesque avait des hésitations. Il voulait s'assurer que la politique linguistique soit stable. « Je l'ai beaucoup rassuré là-dessus, dit-il. » Pour le reste, c'était tout au plus des différences d'opinion. Quelles étaient les objections de l'évêque? Aux yeux de Martine Tremblay, l'ancienne chef de cabinet du Premier ministre, celui-ci n'était pas chaud à l'idée de braquer inutilement la communauté anglophone et les gens d'affaires à la veille d'un référendum. Cependant, Camille Lorrain revenait inlassablement à la charge avec calme et aplomb. C'était un bulldozer, Camille Lorrain, observe Martine Tremblay. Il prenait tout le temps qu'il faut. Il avait les gens à l'usure. Il faut dire qu'il était soutenu par Louis Bernard, qui avait un poids énorme. La loi 101 sera adoptée. Camille Lorrain, on lui reconnaît à raison le titre de père de la charte de la langue française, dit Martine Tremblay. Le retour. En 1984, Camille Lorrain est vice-premier ministre. Il est au nombre des députés qui démissionnent à la suite des réorientations fixées par l'évêque en faveur d'un fédéralisme envisagé tel un beau risque. Dans une belle lettre, l'évêque l'assure néanmoins que rien ne saurait entamer leur amitié. Réélu en 1994, les cheveux toujours teints d'un noir corbeau, Lorrain a désormais 72 ans. Il est déçu de voir que le nouveau premier ministre, Jacques Parizeau, ne lui accorde pas de ministère. Monsieur Parizeau voulait un nouveau cabinet. Il voulait montrer une césure entre l'ancien gouvernement et le sien, explique Louis Bernard. Quel est l'héritage de Camille Lorrain? La loi 101, assurément, affirme Louis Bernard. C'est énorme. Non seulement la loi a été stable, mais elle a changé le visage du Québec. Avant, nous avions 80% des immigrants qui passaient à l'anglais. Ce rapport à la langue, posé par Lorrain comme fondamental, aura révélé aux Québécois une image d'eux-mêmes jusque-là passablement floutée par des législations embrouillées. C'était « La langue de Camille Lorrain », un texte de François Nadeau paru le 8 mars 2024 dans Le Devoir.
Golden Temple Mail. Voyage en Inde à bord d'un train de légende. Un texte de Marion Osmond, paru le 3 avril 2024 dans Voyageurs du Monde. Le voyage en train est le mode de déplacement favori des Indiens. La Indian Railways emploie 1,5 million de personnes et transporte 8 milliards de passagers par an. À elle seule, la gare Viti, Victoria Terminus, de Mumbai, ex-Bombay, charrie 3 millions de voyageurs chaque jour. Les trains bondés y circulent à la cadence des métros parisiens. Les Indiens empruntent le train pour leur trajet quotidien comme pour leurs déplacements liés aux pèlerinages, fêtes et autres célébrations. Alors, on fait comme eux. On embarque pour un voyage en train en Inde à bord du Golden Temple Mail. Voyager dans l'histoire. Certains des trains qui circulent aujourd'hui drainent avec eux la formidable épopée du rail indien, entamée il y a un peu plus de 170 ans. Le voyage inaugural a eu lieu en 1853 entre Bombay et Tana, soit un parcours de 34 kilomètres. Voyager en train sur ces parcours patrimoniaux, c'est regarder l'histoire à la fenêtre. Les paysages défilent et avec eux l'aventure de la vapeur indienne, intimement liée à celle de l'Empire britannique des Indes, mais aussi à celle de l'indépendance. On se souvient des campagnes du Mahatma Gandhi menées en train et en troisième classe. Parmi les trains mythiques, le Darjeeling Himalayan Railway a été mis en service en 1881 par les administrateurs de Calcutta qui, fuyant la chaleur de la ville, prenaient leur quartier d'été à Darjeeling. Aujourd'hui encore, le train tousse et fume dans la brume. Ces trois wagons bleus cobalt cheminent à 12 km/h. C'est le train le plus lent du pays, sur un tracé vertigineux, cerné de plantations de théiers. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le train doit sa renommée à la technicité déployée par les ingénieurs britanniques pour lui permettre de grimper sur les contreforts de l'Himalaya. Gare culminante, 2258 mètres d'altitude. Et plus récemment, à Wes Anderson, qui le met en scène dans son film « The Darjeeling Limited ». Le courrier de sa gracieuse majesté. Mais le chemin de fer n'a pas été édifié pour le confort de quelques colons en mal de fraîcheur. Si le rail permet de réduire la distance entre les plantations de coton et les usines du Lancashire, l'orage ne peut pas administrer le sous-continent indien sans un service postal efficient. Le train va permettre d'affréter les ordres de mission et les ordres de paiement pour les salaires des fonctionnaires. La liaison entre Londres et Bombay est d'abord maritime via le Cap de Bonne-Espérance, temps d'acheminement d'un courrier, entre 90 et 120 jours. À partir de 1856, la Malle des Indes transite via Douvres et Calais jusqu'à Paris, puis par le Paris-Lyon-Marseille, PLM. Le train prioritaire roule de nuit à grande vitesse, 60 km/h, quand tous les autres sont à l'arrêt, stationnés dans les gares pour lui laisser la voie libre, de quoi alimenter tous les fantasmes et imaginaires. C'est de là que naît la légende de la Malle des Indes. Si les wagons postaux ne contiennent que des courriers administratifs, rien de bien romanesque, beaucoup imaginent or et diamants, espions et trésors secrets. Chargés sur les quais de Marseille ou de Brindisi, en Italie, les paquebots rejoignent ensuite Bombay. Et c'est aussi pour acheminer le courrier que sont développées les lignes ferroviaires qui quadrillent le pays où transitent des trains express longue distance, les mail, malposte, courrier. Ces trains, chargés du courrier de sa gracieuse majesté, parcourent de très longues distances, à l'image de notre Orient Express européen qui relie Paris à Istanbul. Le Bombay Mail, par exemple, relie Calcutta, gare de Howrah, à Bombay, sur un itinéraire de 2159 km. Le Punjab Mail transite entre Bombay et Ferozepur sur 1924 km, via Agra, Delhi et Bathinda. Le Amritsar Mail relie Calcutta, toujours à partir de la gare de Howrah, à Lahore via Patna, Lucknow et Benares, sur un parcours de 1908 kilomètres. À bord du Golden Temple Mail. Les mails, encore en circulation aujourd'hui, sont des vestiges de la légende. Ils ont conservé leurs appellations britanniques pour rappeler la splendeur des temps passés. Parmi eux, le Golden Temple Mail a été inauguré en 1928. Il était alors nommé Frontier Mail et reliait Bombay à Peshawar via Lahore. Ces deux villes sont aujourd'hui situées au Pakistan. Depuis la partition indo-pakistanaise en 1947, son terminus se situe à Amritsar, au nord-ouest de l'État du Punjab, et il a été rebaptisé en hommage au Temple d'Or, lieu saint du sikhisme et centre spirituel et culturel de la communauté sikh. Lors de sa mise en circulation, le gouvernement britannique des Indes le considérait comme sa réalisation la plus glorieuse. Avec ses 2335 kilomètres de parcours, il constituait la liaison la plus longue du sous-continent indien. Une distance qu'il parcourait en 72 heures, transportant en plus du fret 450 passagers dans ses 6 confortables wagons. Sa mise en circulation a permis l'acheminement d'un courrier de Londres à Peshawar en seulement 21 jours. En dépit de l'étendue du parcours entre les deux villes, le Frontier Mail était toujours à l'heure et sa ponctualité était légendaire. Votre Rolex peut vous décevoir, le Frontier Mail, non. Aujourd'hui, cette ponctualité s'est quelque peu érodée. Et il ne viendrait plus à l'idée de quiconque de le comparer au luxueux garde-temps suisse. Mais embarquer à bord du Golden Temple Mail permet de se souvenir d'un temps où les messageries instantanées et les chaînes d'infos en continu ne nous imposaient pas le rythme, ni ne façonnaient nos imaginaires. Histoire et spiritualité indienne. Aujourd'hui, le Golden Temple Mail relie Mumbai à Amritsar en 32 heures. Il quitte la gare de Mumbai Central, MMCT, à 21h30 et arrive à Amritsar le surlendemain à 5h45. Mais on préférera l'emprunter sur plusieurs jours, en faisant halte au fil du trajet. De Mumbai, sur la côte ouest, dans l'état de Maharashtra, à Amritsar, dans le Punjab, à l'extrême nord du pays, non loin de la frontière pakistanaise. Le parcours permet d'appréhender une multiplicité de facettes du pays le plus peuplé de la planète. Au fil du parcours, on voyage dans le temps. Des citadelles rajputes à l'architecture brutaliste et on approche toutes les spiritualités indiennes. Sikhisme, islam, bouddhisme, hindouisme. Une première étape à Vadodara permet de rejoindre Ahmedabad dans l'état du Gujarat. On y admire autant la rigueur des lignes de Le Corbusier. La villa Sodham est, selon les mots de l'architecte, une version tropicalisée de la villa Savoie de Poissy, que les courbes rondes des mosquées. Des demeures aux balcons de bois jaurés au temple Jain ciselé, la vieille ville est très belle, égayée par des centaines de cerfs-volants qui flottent dans le ciel. On visite aussi l'ashram fondé par Gandhi, aujourd'hui reconverti en musée dédié au Mahatma et à la Satyagraha. Puis, on fait halte à Kota, au Rajasthan. La ville, surnommée l'usine à prépa, ne figure pas sur les guides touristiques, mais elle est bien connue des étudiants indiens qui y affluent de tout le pays pour préparer les concours des écoles d'élite. Mais ce n'est pas l'ingénierie ou la médecine qui nous intéresse ici, et on file un peu plus loin pour ouvrir une autre page de l'histoire indienne, celle des princes Maharajas et des marchands Marwari, du commerce caravanier, de la route de la soie. On rejoint la citadelle de Chittorgarh. Perchée sur une falaise, l'ancienne capitale, Rajput, se divise en rikshas, ruelles étroites qui riellent de temples et de palais de pierre ocre. Un peu plus loin, posé sur le lac Pichola, le Lake Palace, ancienne résidence d'été des souverains d'Udaipur, est reconverti en hôtel, l'un des plus romantiques du pays. On y goûte au faste de l'Inde princière, à travers ses salles de marbre blanc, ses patios enchanteurs et les trophées de chasse et photographies sépia de matchs de polo qui ornent ses murs. À Jaipur, les vieilles ambassadeurs blanches, qui slalomment entre les mobilettes, les vaches et les rickshas, se jouent des lignes droites du plan d'urbanisme de la ville, inspiré du zodiaque hindou, édifié en 1733. C'est la première ville du pays qui en est dotée, selon les souhaits du monarque éclairé, Jaisingh II. Puis, c'est Agra et son Taj Mahal, hymne silencieux à l'aimée défunte. À Delhi, on visite bien sûr le musée national du rail, avant de rejoindre les villages branchés de Shapur Jat et Hauska, pour prendre le pouls de l'Inde contemporaine. Après l'énergie de la métropole, on fait une halte chez Vishnu, à Haridwar, sur les rives du Gange. Et le train aborde enfin les steppes du Punjab, qui s'étendent à l'infini. Amritsar, ville sainte des Sikhs, est hyper bruyante, congestionnée et polluée. Mais le temple d'or est une bulle de sérénité, un écrin de fraîcheur, très loin du tumulte de la ville. Les fidèles arpentent le sanctuaire par centaines, pieds nus sur le marbre. La litanie des psaumes récités par les prêtres se répand par vagues, rythmée par le tambour. Enveloppante, elle invite au vertige. On se mêle à la foule. Le temple d'or, merveilleux point d'orgue de cette épopée sur rail, vaut à lui seul le voyage. C'était Golden Temple Mail, voyage en Inde à bord d'un train de légende, un texte de Marion Osmond, paru le 3 avril 2024 dans Voyageurs du Monde.